Il faut être très, très doux en fait avec les abeilles, il faut y aller en douceur, parce que sinon après voilà, elle peut être agressive. Mais sinon il n'y a aucun danger. Je viens même parfois sans combinaison. Je suis passionné par le travail qu'elles peuvent faire. C'est impressionnant. Quand une abeille naît, en fait, elle va nettoyer des cellules, elle va devenir nourricière, elle va devenir ouvrière. Elle passe par plusieurs métiers et c'est passionnant de les regarder. Et une colonie, c'est comme une ville, comme une entreprise. Elles s'organisent toutes entre elles.
Entrer au cœur d'une ruche et écouter le rythme de vie des abeilles, c'est la passion de Frédéric, appelé l'apiculteur de l'Artois. Cet habitant de Brebières, près de Douai, a repris au printemps dernier le rucher de la ville voisine, Vitry-en-Artois. C'est là que nous rencontrons cet apiculteur débutant et ses abeilles, dans un cadre verdoyant et champêtre, au bord du canal de la Scarpe.
J'étais sapeur-pompier à Vitry et en fait j'ai, lors d'interventions, beaucoup d'interventions avec des apiculteurs. Je suis passionné par la nature, de par mon métier, puisque je travaille dans le domaine de la biodiversité. J'ai effectué en fait une formation pendant près de 9 mois au syndicat apicole artésien d'Arras. Voilà, j'ai eu la chance en fait avec des amis qui faisaient de la marche en fait de trouver ce rucher à Vitry-en-Artois qui était abandonné. Donc j'ai contacté la mairie de Vitry-en-Artois et j'ai eu la chance de me confier ce rucher qui est dans un magnifique site en pleine nature.
Donc depuis quand déjà vous êtes apiculteur? Ça a commencé à quel moment?
Donc en fait j'ai commencé ma formation en septembre 2024, j'ai terminé en juin 2025 et donc je viens de m'installer, donc c'est tout récent, hein, depuis 2 mois je suis ici.
Et qu'est-ce qui vous passionne de l'apiculture?
Alors je suis passionné déjà de par la nature, la biodiversité. Je trouve que c'est un être pollinisateur en fait qui est très très intelligent, qui fait beaucoup de choses. J'adore le miel aussi. Voilà, j'ai eu la chance en fait de rencontrer des apiculteurs de par mon expérience en tant que sapeur-pompier, des formations aussi que j'ai pu faire. Et voilà, j'ai voulu me lancer dans cette nouvelle aventure.
Et là, nous sommes où ici exactement? C'est quel endroit? Parce que là, à la radio, on n'a pas l'image, mais on a le canal de la Scarpe à côté. C'est vrai que c'est beaucoup de nature. On est vraiment en pleine nature.
Nous sommes en pleine nature, juste à côté des jardins municipaux de la commune de Vitry-en-Artois. Donc en dessous d'un magnifique sol pleureur. Voilà, effectivement en pleine nature, juste à côté du canal de la Scarpe, avec parfois des cygnes qui viennent me faire coucou ou des poules d'eau.
Et vous disiez, ouais, les ruches, elles étaient abandonnées par la commune, parce que ça appartenait à la commune, en fait, hein, ici, les ruches.
Donc les ruches, c'est le rucher municipal de Vitry-en-Artois, qui effectivement, en fait, depuis un an, en fait, il n'était plus exploité. Donc les ruches, effectivement, il n'y avait plus d'abeilles, et en fait, voilà, j'ai tout remis en état, et voilà, je me suis réinstallé avec de nouveaux essaims.
Et donc pour vous, c'est une passion, ou ça devient un métier aussi d'être apiculteur?
C'est une passion et en fait c'est un travail accessoire, hein, puisque je travaille dans l'administration, dans le domaine de l'environnement, justement avec les produits phytopharmaceutiques. Et voilà, je suis passionné en fait par ce monde de l'abeille et je veux faire une activité accessoire en plus de mon travail. Donc là on va procéder en fait à l'allumage de l'enfumoir, hein. Donc l'enfumoir en fait ça permet d'avertir les abeilles en fait qu'on va travailler avec elles. Donc ça permet de moins me protéger, puisque en fait on signale en fait qu'on arrive, ça coupe un peu les phéromones, c'est-à-dire que les moyens de communication entre elles, et donc elles vont redescendre dans la ruche pour se gorger de miel. Et donc du coup je vais pouvoir travailler en toute sécurité sur la ruche.
Et donc, ça prend du temps pour s'occuper des ruches. Alors, l'hiver, elles sont en hibernation. Il y a quand même du travail à faire. Et puis là, le printemps, c'est plein d'activités, hein, avec la récolte du miel et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des ruches?
Effectivement, donc je viens à peu près tous les 2 jours pour leur faire un petit coucou, leur dire bonjour à mes filles. Ensuite, je fais une grosse visite en fait toutes les semaines. Et puis donc après, au niveau de la récolte du miel, j'ai déjà fait une première récolte au bout de 2 mois. J'ai récolté une quinzaine de kilos de miel, dont une partie de la production va être distribuée en fait à la mairie de Vitry-en-Artois. Il y a un suivi régulier pour regarder l'état en fait de la ruche, s'il y a du couvain, s'il y a toujours du nectar, en fait, s'il y a du pollen, pour qu'elle puisse se nourrir et voir l'état de la colonie. J'ai, il y a 15 jours, la perte en fait d'une reine. Alors soit il y a eu un essaimage, c'est-à-dire qu'elle est partie en fait avec une partie du miel et des abeilles, ou il y a dû se passer quelque chose, mais en fait voilà, j'ai eu une reine qui est disparue.
Et on voit autour des ruches, il y a aussi une bouteille accrochée, mais là c'est pas pour les abeilles, justement pour des prédateurs.
Oui, bah c'est l'apéro pour les frelons. C'est un anti-frelon, donc c'est un moyen de protéger les abeilles, puisque les frelons attaquent les abeilles. Donc c'est un mélange en fait de bière, de sucre, là en l'occurrence j'ai mis du sirop de pêche, et de vin blanc. Donc les frelons sont attirés par ce mélange, et par contre les abeilles n'y vont pas puisqu'elles n'aiment pas le vin blanc, donc ça les repousse. Et mon deuxième moyen également pour lutter contre les frelons, en fait, c'est des portes en fait, au niveau des entrées. L'espace ne laisse pas passer les frelons.
Et on parle des frelons asiatiques effectivement qui déciment des ruches, mais il peut y avoir aussi des maladies, il faut être vraiment toujours vigilant quand on a des ruches.
Oui, donc en fait, il y a surtout de la maladie qui s'appelle le varroa, comme des petites araignées, en fait, des petits crabes en fait, qui se collent en fait, sur les abeilles, et ça peut effectivement décimer une ruche. Donc ça, il faut toujours être vigilant, surtout au mois de septembre, juste avant l'hivernage. Donc il y a parfois un traitement qui est fait. Voilà.
Et donc là, on voit trois ruches, deux grandes, on va dire, une plus petite. C'est des colonies différentes, il y a différents nombres d'abeilles ou non?
Alors en fait, la ruche qui est beaucoup plus petite, c'est simplement que c'est là où la reine a disparu. Donc en fait, je ne peux pas mettre de réhausse pour récolter du miel, puisque la colonie est en train de se reformer. Là, j'ai eu quatre cellules royales, donc il y en a une nouvelle reine qui a dû naître, qui a dû se faire féconder par 8 à 10 mâles. Et donc là, je laisse en fait la nature se refaire, et elle devrait répondre pour avoir des nouvelles abeilles dans 21 jours. Et l'autre, en fait, effectivement, l'autre ruche, c'est une ruche qui est très forte. En ce moment, il y a à peu près 40 à 50 000 abeilles à l'intérieur, effectivement avec deux réos, une réos qui est déjà pleine de miel et une deuxième qui est à 80% bientôt remplie. Très délicat, on procède à la visite.
Rencontre aujourd'hui avec Frédéric, l'apiculteur de l'Artois, qui a repris les ruchers de la ville de Vitry-en-Artois, qui produisent une bonne quantité de miel cette année, dû au temps favorable, comme l'explique cet apiculteur amateur.
Oui, effectivement, par rapport à l'année précédente, en fait, où l'année dernière il pleuvait beaucoup, en fait, entre avril et août, cette année c'est une année très favorable, en fait, pour les apiculteurs. Et effectivement, en fait, dans le cadre de la biodiversité, il y a eu le colza, en fait, en début de saison. Puis là, en fait, on va faire du miel toute fleur, donc effectivement, c'est très favorable. C'est une belle saison qui débute bien.
Oui, parce que là, on est à la sortie de Vitry-en-Artois, et c'est vrai qu'il y a tous les champs autour, hein, c'est ça. Elles ont pas mal de choses à butiner, les abeilles.
Elles vont dans les champs aux alentours. Comme elles peuvent aller jusqu'à 3 km, en fait, elles vont jusqu'au marais de Billache, au marais de Vitry-en-Artois, dans la ville, à butiner un peu ce qu'il y a dans les jardins, la lavande, en fait, les arbres fuitiers aussi. Là, j'ai des sureaux, en fait, qui sont en train de pousser juste au-dessus des ruchers. Et donc, j'ai commencé aussi à mettre des petites fleurs, en fait, pour qu'elles puissent butiner, pour qu'elles puissent polliniser.
Et donc, c'est quel type d'abeilles aussi que vous avez? Parce que je sais qu'il y a plusieurs sortes, hein, d'abeilles.
Donc, l'espèce que j'ai prise, en fait, c'est la pisse mellifera.
Et donc, qui est favorable pour ce type d'endroit ou pas forcément?
C'est un type d'abeille en fait qui est très répandu en France et dans le nord de la France, qui résiste bien en fait au niveau des intempéries, surtout au froid dans les Hauts-de-France.
Alors, est-ce que déjà, même si vous avez commencé il n'y a pas longtemps, vous récoltez beaucoup de miel, et qu'est-ce que vous faites ensuite de tout ce miel?
Donc là, j'ai récolté 15 kilos de miel il y a 15 jours, donc au bout d'un mois et demi, que mes essaims étaient arrivés, donc c'est très bien par rapport à la météorologie qui est très favorable. Et donc ce miel, c'est déjà j'ai une partie avec la mairie de Vitry, en fait dans le cadre du contrat que j'ai passé avec eux, donc je dois donner une partie de ma production qui va probablement servir, si j'ai bien compris, pour les noces de mariage, ou pour des événements en fait que la mairie peut organiser. Et puis le reste, c'est pour mes besoins personnels, familiaux. Et je pense d'ici quelques mois en fait développer une entreprise faite pour vendre mon miel dans les marchés artisanaux.
Et donc vous, l'objectif là déjà, c'est de récolter du miel hein, avec la ville de Vitry-en-Artois, pouvoir les proposer. C'est aussi passer du temps dans la nature. C'est quoi l'objectif de ce projet ?
Effectivement, le but, c'est de passer du temps dans la nature, de développer mes compétences et puis après, effectivement, peut-être m'étendre, en fait, mettre un peu plus de ruches sur ce site ici ou voir, je sais qu'il existe un site également sur Brebière qui est peut-être à prendre. Voilà, le but après, peut-être, c'est de s'étendre en fait sur d'autres ruchers, sur d'autres communes.
Et peut-être de pouvoir en vivre un peu ou pas du tout ?
Alors pas forcément vivre un peu, hein. Le but c'est de se faire plaisir. Bon comme là je vous dis en fait il y a une partie de la production qui repart en fait à la mairie, mais c'est pas forcément pour en vivre.
Pour procéder à la visite en fait on a un lève-cadre, puisque en fait toutes les cadres en fait sont collés. Ici vous pouvez voir en fait qu'il y a beaucoup de nectar ici en bas et en fait du miel qui est operculé. Donc sur un cadre il y a à peu près 2500 abeilles. Ce qu'on peut avoir, c'est que ce qu'ils font d'un côté, en fait, c'est symétrique de l'autre.
Alors ici à Vitry-en-Artois, comme ça se passe aussi avec la commune, est-ce que vous faites de temps en temps des petits ateliers ou des visites des ruches pour les écoles, même pour les adultes ?
Bien sûr, comme je me suis engagé dans le projet avec la mairie de Vitry-en-Artois, donc je me suis engagé à intervenir auprès des écoles ou dans des marchés locaux. Je peux accueillir également en fait des personnes sur site. J'explique également sur ma page Facebook en fait l'apiculteur de l'Artois tout ce que je fais sur le rucher. J'essaie de faire une publication par semaine et les gens qui veulent venir voir, c'est avec plaisir que je peux leur faire découvrir le rucher.
Oui, et puis de partager cette passion, hein, vraiment. Et puis aussi de montrer peut-être l'importance des abeilles pour la biodiversité, et puis ça, le fait de polliniser toutes nos fleurs.
Bien sûr, ça a une importance primordiale, hein, puisque sans les abeilles, on n'aurait pas de fruits, on n'aurait pas de légumes. Et donc, c'est très important. Et actuellement, en fait, il y a un projet de loi, d'ailleurs, en fait, concernant l'introduction en fait, de pesticides, hein, qui est autorisé dans d'autres pays européens et qui est néfaste pour les apiculteurs, puisque ça peut tuer les abeilles. Donc, c'est un produit qui est utilisé pour les cultures, je pense, de betteraves. C'est un insecticide qui pouvait être utilisé aussi par les jardiniers, mais de moins en moins, puisque maintenant, ils utilisent des biocontrôles. Mais ce produit, en fait, est dévastateur pour les abeilles. Donc, ça aide donc c'est un choix cornélien, en fait, pour le gouvernement. La loi devrait prochainement sortir. Et j'espère que ces produits ne seront pas utilisés pour le bien des abeilles dans toute la France. Voilà. Une ruche produit entre
'était la rencontre de Frédéric et ses abeilles du rucher de Vitry-en-Artois entre Arras et Douai. Pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur la page Facebook L'apiculteur de l'Artois. Un reportage de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus 106,6.
Dans la bandia fatigant. Il veut que tout le monde y marche en rang. Il garde toujours de gauche à droite, la première ligne elle est bien plate. Tu vas voir qu'un jour, ce cousin, il va sortir un petit calepin. Il va dire, c'est moi qui commande, voilà la composition de la bande. En plein milieu, il y a les canaux, ceux qui posent pour la Voix du Nord. Et puis autour, il y a tout le panel qui a fait la pub pour RTL. De temps en temps, juste pour faire bien, on met un prout ou un zazin. Et s'il n'y a plus de place pour les doigts, ils vont quand marcher sur le trottoir. En deuxième ligne, c'est plus pratique, tout le monde par ordre alphabétique. D'Arte Bourré, vas-y Goma, et je fais l'appel place de la gare. Surtout pousser comme un signal, sinon devant, on tient que dalle. Et vous laissez rentrer personne, sauf que le gros diche qui pèse une tonne. Bah moi j'en ai marre de cette affaire, de cette dérive sarkozytaire. Qu'on foute la paix au carnaval, de Neuilly jusqu'à Rosendal. Si t'empêches la bande de bouger, un beau jour elle va s'arrêter. On peut pas faire un tchap au-dessus, avec un flic derrière son cul. Mais je fais confiance aux Dunkerquois, ils sont pas prêts de marcher au pas. Je préfère la bande qu'elle fait des vagues et qu'on marche tous en zigzag. Si des gamins te foutent le bordel, c'est peut-être que t'as du plomb dans l'air. Ta place, ben t'as peur qu'ils te la prennent. L'avenir, c'est eux, mon capitaine.
There's still time. I guess. Depuis 2021, un groupe d'entraide mutuelle, un GEM, a vu le jour à Saint-Venant, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Lancé et soutenu par l'association Sourire d'Autistes, le projet a rapidement été rejoint par de nombreux membres désormais constitués en association baptisée Des Racines et des Ailes. Les membres du groupe viennent quand ils le veulent, gèrent leur emploi du temps, les actions et le budget de l'association dans une démarche d'émancipation, de valorisation et de partage, comme nous l'explique Julia Bouchindhomme de l'association Sourire d'Autistes et deux adhérents de l'association Des Racines et des Ailes.
L'association Sourire d'Autistes, elle a été constituée en 2008 par les parents de Florine, Geneviève et Raymond Serrure. Florine est une jeune femme autiste qui a été confrontée à une rupture de parcours brutale à l'âge de 20 ans. Et donc, par manque de solutions, ils ont créé l'association Sourire d'Autistes pour ouvrir des espaces des possibles qui aujourd'hui dispose de 3 dispositifs. Donc, une plateforme d'accompagnement coordonnée à la ferme Sénéchal de Vieille-Chapelle. Ensuite, on a le groupe d'entraide mutuelle de Saint-Venant. Et arrivent très bientôt les habitats inclusifs sur Vieille-Chapelle également.
Alors nous, on va surtout évoquer le GEM, donc le groupe d'entraide mutuelle des Racines et des Ailes. C'est donc une association que vous avez créée ensemble avec l'association Sourire d'Autistes. Et vous êtes donc adhérent de cette association, Alexis Adrien, donc du GEM, le groupe d'entraide mutuelle. Pourquoi vous l'avez appelé d'abord des Racines et des Ailes ?
Alors, on l'a appelé des Racines et des Ailes parce que des racines, du coup, on est enraciné. Et des ailes parce qu'on apprend du coup à s'envoler grâce à l'évolution de notre autonomie.
Ça fait 4 ans qu'il a été créé ce GEM. Pourquoi il a été créé, Julia ?
Pour ouvrir un espace de liberté en fait, en dehors des institutions et pour compléter les institutions médico-sociales. Donc c'était vraiment une volonté de pouvoir ouvrir un lieu pour répondre à des objectifs de rompre l'isolement, créer, soutenir l'entraide entre soi et s'ouvrir au monde.
Il y en a partout dans la région et en France, des GEM d'ailleurs.
Oui, c'est un appel à projet de l'ARS à laquelle a répondu l'association Sourire d'Autistes et l'ARS a donné sa confiance à Sourire d'Autistes pour mettre en place et gestionner le groupe d'entraide mutuelle.
C'est vous-même qui gérez donc cette association. Qu'est-ce que vous faites avec le GEM ? Vous organisez quoi, Alexis ?
Et du coup, avec le GEM, on organise du coup diverses activités. Donc du coup, en fait, ça se fait aussi avec les envies d'adhérents. Donc du coup, en intérieur, du coup, si les adhérents ont envie d'un jeu de société, du coup, on se fait ensemble un jeu de société. En extérieur, si des personnes ont envie d'aller à la piscine, par exemple, on planifie ça dans le planning, du coup. Par exemple, sur un mardi. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on organise du coup nos activités au GEM. Et à savoir aussi, je le précise, c'est-à-dire que une fois par mois, on fait un repas partagé au GEM. Donc j'explique, on se concerte ensemble pour un plat. Donc ça va être, je mets un exemple, un risotto. Donc du coup, on voit ce qu'il faut comme ingrédient. Et à la veille, on achète du coup les ingrédients qu'il faut pour le risotto, ça peut être même la matinée. Et du coup, ensuite, on apprend à cuisiner ensemble pour ceux qui n'ont pas forcément l'expérience, ou même voir ceux qui ont l'expérience. Enfin bon, c'est vraiment, on apprend ensemble à cuisiner.
Vous partagez chacun vos connaissances finalement.
Exactement, c'est ça. Et puis ensuite, on partage ensuite le moment ensemble pour apprécier ce repas.
Donc, on le précise, ce n'est pas un lieu médico-social. C'est quoi la différence, en fait, avec un lieu médico-social ?
En fait, avec un médico-social, c'est que on n'est pas libre de nos faits et gestes, pour ainsi dire. En fait, ce n'est pas nous, les acteurs du lieu, si c'est médico-social. Tandis qu'au GEM, c'est tout l'inverse. C'est nous qui sommes acteurs du lieu. C'est notre espace de vie, en fait. C'est un peu ce que ça représente pour nous, le GEM, en fait.
Voilà. Et qu'est-ce que vous appréciez, vous, par exemple, Adrien, dans ce mode de fonctionnement ?
En fait, ça permet de faire nos projets, être plus libre dans nos actions, faire des sorties. C'est pas comme le milieu social, tu vois. Alors que t'es plus limité, tu vois. T'es guidé, j'ai envie de dire.
Donc vous parliez des jeux de société, par exemple, des cours de cuisine, ce que vous faites au sein du GEM qui est installé à Saint-Venant. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme sorties qui sont organisées par les membres de l'asso
Du coup, toutes les sorties sont vraiment, partent vraiment de l'initiative de chaque adhérent. S'il y a une envie d'un jeune adhérent qui a envie d'aller au bowling, c'est parti, on s'organise pour savoir qui a envie d'y aller et comment on y va, quand est-ce qu'on y va. Si on a envie d'y passer la journée, pourquoi pas se faire un resto entre deux pour rentrer tranquillement au GEM après une journée de loisirs. Vous avez fait aussi des sorties chez des partenaires aussi également. Donc là, je pense par exemple aux îlots nourriciers. Et donc, il y a eu une sortie qui a été organisée au Jardin d'Emma à Neuilly-Mines, chez Neu Environnement. Donc, visite de jardin, participation aussi au potager, à la vie active du potager. C'était fort intéressant. Beaucoup d'adhérents se sont pris au jeu, ont participé et du coup, on grandit également ensemble en apprentissage.
Et parmi les projets, donc, un GEM itinérant est en train de se créer. Comment ça fonctionne déjà dès maintenant?
Alors, comment ça fonctionne? Alors, pour le GEM itinérant, en fait, l'idée de base, c'est qu'en fait, comme le GEM a été créé à Saint-Venant, eh bien, en fait, au niveau des transports pour se rendre au GEM, c'est totalement dépaysé, en fait. Donc, c'est-à-dire que du coup, il y a une phrase qui m'est venue comme ça, c'est « si les jeunes ne peuvent pas venir au GEM, alors le GEM viendra eux ». Donc, du coup, c'est là où le projet a commencé à mettre petit à petit en place, pas forcément tout de suite, mais du coup, cette année, c'est là où le projet a commencé à se mettre en cours. Donc du coup, on a pensé justement à s'installer à Béthune avec notre partenaire L'Envol. Du coup, L'Envol qui est un tiers-lieu, exactement.
Donc comme ça, vous pouvez accueillir vos adhérents, de nouveaux adhérents à Béthune. Vous pensez aussi vous installer à Lens également?
Oui, tout à fait, même à Lens. On compte vraiment parsemer notre GEM, voilà. Et vraiment, le faire connaître, voilà.
Et c'est pour ça que vous êtes ici, parce que d'ailleurs, on peut devenir adhérent à votre association. Adrien, comment on devient adhérent? Il y a des conditions?
Il faut avoir le TSA, le trouble spectre autistique, et il faut avoir 18 ans.
Donc on peut aussi venir de n'importe quel secteur, que ce soit Béthune, Lens, par exemple, Saint-Venant.
Oui, tout à fait. On peut habiter de n'importe quel secteur. Il faut juste que que pour ça soit les parents ou la personne même, que ça soit accessible pour venir au GEM, voilà.
Et un dernier mot peut-être un dernier mot pour ceux qui n'oseraient pas se lancer et qui aimeraient partager des moments comme ça comme vous, comment vous pourriez les convaincre?
Eh bien venez nous voir, vous serez pas déçus.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans cette organisation, dans ces préparations de sortie, notamment ensemble, et dans ces moments aussi?
Eh bien, je pense que ça serait plus un moment de partage et de joie, enfin voilà quoi.
De bonne humeur.
Oui, de bonne humeur aussi, voilà.
Le GEM des Racines et des Ailes vous accueille donc du lundi au vendredi de 9h à 18h dans sa structure à Saint-Venant et à Béthune chaque jeudi de 11h à 17h au passage à niveau de L'Envol. Et n'hésitez pas à suivre cette association sur sa page Facebook. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus. On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillé, letaillerproduction.com et sur ticketmaster.fr.
Si Je ne veux plus te revoir, tu es un personnage de mauvais goût. Tu es ivre tous les soirs et tu violes les bouches d'égout. Que tu cambrioles des banques, libre à toi, c'est ton histoire. Mais dispense-toi de laisser un mot disant que tu es venu de ma part. C'est pas correct. Pas du tout. Je suis allé voir mon psychiatre, il était assis sur un clou dans le noir. Je lui ai dit pourquoi mes oreilles sifflent-elles trois fois chaque soir. Il m'a répondu en sortant des tarots de sa veste. Ça veut dire qu'on parle de toi tous les soirs au Far West. Et youpi. Oh, je lui ai montré ta photo, lui demandant « Penses-tu qu'on s'aime ?» Il a sifflé entre ses dents, il m'a crié « Y'a pas de problème !» Elle pense à toi lorsqu'elle est stone, tu penses à elle quand tu es sous. Si tu n'appelles pas ça de l'amour, je dis à tout le monde que tu es fou. Et par ici la monnaie. L'escalier, j'ai croisé un gourou, son haleine empestait l'encens. Il m'a dit, jeune homme, viens, je vais t'insuffler la divine essence. Mais lorsqu'il m'a poussé vers les toilettes en prenant mille précautions, alors seulement j'ai réalisé quelles étaient ses intentions. J'étais déçu. Hare Krishna, tout le monde descend. Je suis entré dans un café pour me remettre de ma panique. J'ai commandé un remontant, on m'a servi de l'élixir parégorique. La fille peinte sur le flipper, c'était toi déguisé en nonne. Et à la fin de chaque partie, le cadran indiquait ton numéro de téléphone. Alors j'ai fait tilt. Oh, je me suis battu avec le garçon pour une affaire de pourboire. Alors le patron a sorti trois quarts de flics de sous son comptoir. Arrivé au commissariat, je leur ai dit que j'étais psychopathe. Ils m'ont laissé partir, ils ont dû croire que c'était un groupe d'extrême droite. Alors j'ai marché droit devant moi, j'étais plutôt en rogne. J'ai fini par m'échouer sur un banc du bois de Boulogne. Cet idyllique endroit où l'on promène les chiens et les enfants. Un Danois m'a donné son ballon, un petit blond m'a montré les dents. Et j'ai vu venir à moi Saint-Martin, surmonté d'une perruque fluo. Il traînait au bout d'une ficelle la moitié d'un perfecto. Il a craché son chewing-gum et m'a dit d'une voix blanche: t'aurais pas 100 balles à échanger contre 3 minutes d'indulgence. Je les avais pas. Et je t'ai rencontré dans la rue vers 3 heures du matin. Tu errais comme l'âme de Shakespeare en compagnie de tes deux chiens. Tu m'as dit c'est mon mec qui a la clé et il n'est toujours pas rentré. Je t'ai dit viens chez moi, tu m'as répondu non, mes chiens vont s'ennuyer. Tu es masochiste, oh masochiste à moi. Et tu es un très gentil toutou qui lèche la main qui le frappe et qui refuse de prendre la clé qu'on lui tend pour ouvrir la trappe. Tu ne pourras jamais me voir si tu regardes toujours tes chaussures. Tu ne pourras jamais avancer si tu restes le nez au mur. Demi-tour, oh demi-tour, allez demi-tour, ouh demi-tour, oh. We'll be right back.
j'ai peur de m'égarer. Je tague les murs de ma cité. Et comme la petite Cosette, j'ai peur de la disette. Je vole dans toutes les supérettes. On est poussés dans du béton armé. Nos cœurs sont remis en acier. On est poussés dans du béton armé. Nos cœurs sont remis en acier. La marchande allumette n'a jamais fait recette. Je deal au bahut des barrettes. La vieille fée carabosse voudrait bien que je bosse. Je tape sur la tête de mes profs. On est poussés dans du béton armé. Nos cœurs sont remis en acier. On est poussés dans du béton armé. Nos cœurs sont remis en acier. Je ne suis pas que l'argonne pour montrer mon ras-le-bol. Je brûle des bagnoles au pétrole. Et une bête fait peur, on dit que je suis beurre. Je brasse, tout un tas de couleurs. On est poussés dans du béton armé. Nos cœurs sont remis en acier. On est poussés dans du béton armé. Nos cœurs sont remis en acier. On est poussés dans du béton armé. Nos cœurs sont remis en acier.
Le champ des possibles, paysages et sociétés néolithiques. C'est le nom d'une exposition visible actuellement et depuis septembre dernier à la Maison de l'archéologie de Dainville, près d'Arras. Avant de parcourir cette exposition, petite présentation du lieu en compagnie de Julie Lamar-Lulet, qui est coordinatrice de la médiation.
La Maison de l'archéologie, c'est un bâtiment qui a été ouvert au public en 2016. Qui abrite à la fois les bureaux de la direction de l'archéologie, donc là où travaillent les archéologues départementaux, et également une partie centre de conservation et d'études archéologiques, donc l'endroit où tous les objets archéologiques qui sont découverts dans le Pas-de-Calais sont déposés et conservés dans les meilleures conditions possibles pour les générations futures.
Donc c'est à la fois un lieu
un peu de musée, un lieu de médiation culturelle, et aussi un lieu de travail pour différents archéologues du département, c'est ça ?
Oui, c'est ça, et on a fait le choix au moment de la construction du bâtiment d'avoir un espace ouvert au public, donc avec une salle d'exposition et une salle pédagogique. Donc, la salle d'exposition est renouvelée annuellement, avec des thématiques différentes et des périodes chronologiques différentes abordées, ce qui nous permet de montrer aux visiteurs les découvertes les plus récentes qui sont faites par nos collègues. Et puis la salle pédagogique nous permet d'accueillir en semaine des classes sur réservation, et également le week-end, lorsqu'on est ouvert, des familles pour faire des ateliers, par exemple.
Alors, un mot sur l'exposition qui est visible depuis septembre, me semble-t-il, le champ des possibles. C'est quoi l'idée de base, le point de départ un peu de cette exposition ?
Alors, le champ des possibles, son sous-titre, c'est paysages et sociétés néolithiques. Donc, on propose aux visiteurs de voyager dans le temps à cette époque, qui est un peu une époque charnière pour l'humanité, puisque les hommes et les femmes du néolithique deviennent sédentaires progressivement. Et donc change totalement de rapport à l'environnement, à la nature. Et donc leur impact sur l'environnement et sur la nature va commencer à changer. Et en fait, les commissaires d'expo ont souhaité aborder cette thématique parce qu'elle est d'actualité. Les dérèglements climatiques sont une réalité à laquelle nous sommes confrontés. L'exposition invite à la fois à découvrir la manière dont les hommes et les femmes du néolithique vivaient et exploitaient leur environnement, mais également se questionner, réfléchir, d'où le titre, le champ des possibles, ouvrir vers une réflexion plus collective sur les enseignements qu'on pourrait tirer, nous, à l'heure actuelle, du mode de vie de nos ancêtres.
Alors, le néolithique, pour réviser un petit peu, on parle de quelle période alors ?
Alors, c'est une période qui suit le paléolithique, qui démarre à peu près vers moins 5500 avant notre ère, jusqu'à à peu près moins 2000 avant notre ère.
Alors, on se promène un petit peu peut-être dans l'exposition ?
Allons-y, je vous escorte. Donc là, on est dans une première partie qui permet de découvrir avec de très très belles restitutions qui ont été faites par un dessinateur en archéologie qui s'appelle Benoît Clarisse, de très beaux paysages en aquarelle qui nous permettent de voir les évocations des paysages à différentes époques, du paléolithique jusqu'au néolithique, et donc de voir comment l'environnement s'est transformé. Ce sont des évocations qui sont basées sur des études et des recherches scientifiques. Et donc on aborde dans cette première partie un petit peu les métiers de l'archéologie qui nous permettent de comprendre à quoi ressemblaient les paysages à l'époque. Donc en vis-à-vis de ces paysages, de ces évocations aquarellées, on découvre les différents métiers. Donc on a l'anthracologue, le carpologue, le géomorphologue, le palynologue et le malacologue. Et tous s'intéressent, pour certains, aux graines, pour d'autres au pollen, pour d'autres aux coquillages et aux coquilles, pour certains au charbon de bois, et puis pour d'autres à tout ce qu'on peut retrouver dans les sédiments, dans la terre. Et toutes ces analyses nous permettent de reconstituer les paysages tels qu'ils pouvaient être à l'époque.
On est toujours en compagnie de Julie Lamar-Lulé, coordinatrice de la médiation à la Maison de l'archéologie de Dainville, avec qui on visite l'exposition « Le champ des possibles, paysages et sociétés néolithiques ».
Alors on avance un petit peu, et donc là on voit quelques maquettes, un habit, c'est ça ?
Oui. Effectivement, c'est une reconstitution d'un vêtement, d'une cape qui est en matière végétale, qui était la cape d'Ötzi, qui est l'homme des glaces, qui a été découverte dans les Alpes italiennes il y a quelques années maintenant, et qui a été très bien préservée Et donc, ce qui a permis effectivement de reconstituer une partie de son, sa panoplie de voyageurs. Donc, dans cette partie, on évoque la vie quotidienne des personnes du néolithique et la manière dont elles utilisent les ressources naturelles qui sont tout autour d'elles pour construire leur maison. Donc c'est pour ça qu'on présente une maquette effectivement d'une reconstitution de maison néolithique en bois, en paille et en torchis. Et puis vous avez également des vitrines qui vous présentent différents objets de cette époque et notamment une hache polie qui est absolument fantastique, qui a été découverte à Bouchain dans le Nord et qui a la particularité d'être complète. Donc c'est un objet qui est vraiment exceptionnel, puisqu'habituellement les archéologues retrouvent plutôt les matières qui ne se décomposent pas. Donc retrouvent d'une hache néolithique, retrouvent la partie en silex. Là on a vraiment le manche en bois, l'emmanchement indirect en bois de serre et la partie en silex. Donc c'est un objet vraiment, vraiment exceptionnel. Et puis, on a des vitrines aussi qui présentent l'artisanat, donc l'artisanat potier, puisque le néolithique, c'est aussi le moment où donc on se sédentarise, on commence à pratiquer l'élevage et l'agriculture pour pouvoir se nourrir. Et donc, on va inventer également la poterie, puisqu'il faut stocker les productions. Donc on a une vitrine qui présente différentes poteries qui ont été découvertes dans la région, qui datent de cette époque. Et également, pour ce qui est de l'artisanat, des petits objets, d'autres objets en terre cuite, qui ne sont pas des vases ou de la vaisselle, mais qui sont des témoins indirects de l'artisanat textile, des pesons et des fusaioles. Donc les pesons, c'était des objets assez lourds qui servaient de poids pour tendre les fils d'un métier à tisser. Et les fusaioles, les objets en terre cuite un petit peu plus petits, qui servait à lester un fuseau, donc un bâton, qui entraînait ce bâton dans une rotation pour fabriquer le fil. Donc passer de la matière première brute à un fil qu'on va ensuite pouvoir travailler sur le métier à tisser.
Alors, dernière partie de l'exposition, c'est ça ?
Oui, dans la dernière partie, on aborde les changements et c'est plus une partie réflexive sur la manière dont on pourrait tirer des enseignements du néolithique. Les témoignages directs et visibles dans le paysage encore à l'heure actuelle du néolithique sont quand même assez limités. Il y a essentiellement des mégalithes, donc c'est ces grandes pierres dressées qu'on peut voir sur certaines communes du département et qui sont proposées sur une visionneuse dans l'exposition. Mais en fait, les hommes et les femmes du néolithique sont plutôt raisonnables dans leur manière d'exploiter l'environnement, dans la mesure déjà où ils sont moins nombreux que nous aujourd'hui, qu'il faut évidemment avoir un regard rétrospectif, mais calibré, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui sur la planète, donc c'est aussi normal qu'on ait un impact plus fort. Mais à l'époque, ce qu'on propose de montrer, par exemple, on essaie de faire des parallèles sur le mode de vie zéro déchet, donc on utilise de toute façon des matières naturelles qui sont transformées, qui lorsqu'elles sont cassées ou abîmées, plutôt que de les jeter directement et de s'en débarrasser, on va les réutiliser pour fabriquer d'autres objets. Par exemple, la poterie, les petits éléments de poterie cassés vont servir à fabriquer d'autres poteries, des bracelets en pierre vont être qui sont fragmentés, cassés, vont être réparés et reportés. L'exploitation animale, elle est optimisée, c'est-à-dire que sur une vache, on va récupérer évidemment la viande, on va utiliser le lait, on va utiliser la peau, on va utiliser les ossements pour fabriquer des outils. Tout est vraiment optimisé au maximum. On fait également un parallèle avec la mode vestimentaire et d'où proviennent les vêtements du néolithique et d'où ils proviennent aujourd'hui. donc avec une carte qui est assez, assez parlante. Et voilà, on propose également dans un petit jeu, puisqu'il y a des tables de manipulation dans notre exposition pour chaque thématique, on propose de comparer l'impact de l'homme sur le paysage néolithique et sur un paysage actuel. Donc on part d'un paysage générique, donc avec des forêts, une petite rivière, et puis en plaçant au fur et à mesure des éléments, bah on se rend compte visuellement que l'impact aujourd'hui, évidemment, est beaucoup plus fort, ne serait-ce aussi que parce qu'on passe d'une énergie mécanique à une autre forme d'énergie, et que bah tout ça a un impact beaucoup plus important sur l'environnement. On évoque aussi les modes de déplacement, par exemple. Mobilité douce au néo, et puis à l'heure actuelle, un peu moins douce. Et dans, vraiment, en conclusion de l'exposition, on propose aux visiteurs de planter un épi dans le champ des possibles, de nous fournir le fruit de leur réflexion en notant une idée qu'on pourrait exploiter, et voilà, un enseignement tiré du néolithique comme un message d'espoir pour l'avenir.
Julie Lamar-Lulé, coordinatrice de la médiation à la Maison de l'archéologie de Dainville, a noté que l'exposition « Le champ des possibles, paysages et sociétés néolithiques » est reconduite et vous pourrez en profiter jusqu'à juin 2026. La Maison de l'archéologie du Pas-de-Calais, située rue du Whitstable à Dainville, près d'Arras. Un site internet pour en savoir plus, c'est archéologie.pas-de-calais.fr. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous pouvez écouter les programmes de Radio Campus sur le 106,6 MHz à Villeneuve-d'Ascq ou www.campusil.com à Manchester, en Angleterre.
Je m'appelle Mélusine, je suis une fille facile. C'est pas drôle, je suis morte ce matin dans le hall du voisin. Mon cœur s'est arrêté ce matin, je me souviens plus très bien. Maman, faut pas pleurer, je ne sens rien, je me sens bien. C'est pas parce que je suis aguicheuse, pas parce que je suis une putain. J'étais tellement amoureuse de tous les êtres humains. J'entends à peine la sirène, l'ambulance, les cris des voisins. Je vois des anges dans le ciel, ils sont tout nus, je me sens bien. C'est pas parce que je suis aguicheuse, pas parce que je suis une putain. J'étais tellement amoureuse de tous les êtres humains. J'étais tellement amoureuse de tous les êtres humains. Les êtres humains. C'est pas parce que je suis aguicheuse, pas parce que je suis une putain. J'étais tellement amoureuse.
Tu piques du nez devant la télé, c'est l'heure d'aller se coucher. Une petite caresse au clébard, et puis lire, ils sont plus marre. Je mets la viande dans le torchon, mon nez collé au plafond. La tête dans les étoiles, les doigts de pied en éventail. Je suis rincé, je suis mort, lessivé. Je voudrais faire le même rêve qu'hier où j'étais avec 3DS qui me caressait les bras. Et aussi, enfin, tu vois quoi, je vais pas te faire un dessin. À cause de la censure, avec les anti-machins, je vais avoir des ennuis, c'est sûr. Vu qu'aujourd'hui, tout le monde est choqué pour un rien. Bon, les filles, rigolez, j'aimerais bien vous payer tranquille. Ça fait une heure que je suis couché, mais j'ai toujours les yeux qui brillent. J'aurais pensé hier, à aujourd'hui, même demain, à des trucs sans intérêt qui resteront sans demain. Et je tourne en rond, dans ma tête, c'est le boxon. J'aurais pas dû mettre de café dans mon verre de calvage. J'ai mal au pied, je suis barbouillé, oui, c'est sûrement à cause de ça que la paix veut pas de moi, qu'elle refuse mes avancées. Quand je tends les bras, ben elle disparaît en silence, en laissant là, comme un con perdu. Avec ma couette, j'aurais bien pris les somnifères, mais j'ai tout filé au lardon. Pour être peinard la semaine dernière, j'ai tout dit, mais non, soumis bon. Y'avait du foot à la télé, la Ligue des Champions, et comme il faisait que de chialer, bon, j'ai trouvé une solution. Et après, il a dormi pendant 3 jours. Quand enfin je trouve le sommeil, ben, je suis réveillé par des bruits. On dirait des cris de bêtes qui résonnent dans la nuit. Les cris s'intensifient, je crois, ça meurt d'où ça vient. C'est encore la voisine qui fait du va-et-vient avec deux inconnus, une par le vent, une dans le aïe aïe aïe. J'arrive pas à dormir, je déambule tout seul dans la nuit. Dans mes songes, mes soupirs comme un zombie. La lune n'en a rien à foutre, j'ai même l'impression que ça lui plaît. Me regarder devenir fou, me prendre la tête avec ma couette. Je croise, je lui mets la tête au carré, je le fous au sol et je le fracasse. Faudra pas me parler, je suis pas d'humeur, alors ferme ta gueule. Je dirai pas bonjour et encore moins merci. Et pour toi, mon amour, y'aura même pas un mot gentil. Je ferai la tronche toute la journée, tout seul dans mon coin, mon chenille à bourgonner. Ouais, à brûler comme un gamin, c'est la nuit blanche qui m'a rendu con comme un manche. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai déambulé. Avec ma couette.